Bonjour et bienvenue sur Radio CSeurt, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 18 novembre 2024, épisode 97. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme aujourd'hui, les cyberattaques ciblant les acheteurs du Black Friday, une faille critique dans un plugin de sécurité pour WordPress, l'utilisation croissante des fichiers SVG dans les campagnes de phishing, vulnérabilité critique dans les NAS D-Link exploitant la CVE 2024-10914. Vous retrouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Commençons notre revue d'actualité par de la sensibilisation sur ces périodes de fin d'année. Les cybercriminels intensifient leur activité à l'approche du Black Friday et des fêtes de fin d'année. On constate une fois de plus que les techniques employées sont connues mais toujours aussi efficaces, telles que le phishing, contenant des liens avec des sites imitant les plateformes d'achat légitimes pour voler les informations de cartes bancaires, avec l'aide de l'IA, de plus en plus présente du côté des cybercriminels pour renforcer la crédibilité du mail. La diffusion de logiciels malveillants, tels que des chevaux de Troie ou des ransomware qui sont injectés via des liens ou des fichiers ou des pièces jointes. Le typo squatting, avec des domaines avec des noms similaires à des sites de e-commerce, piégeant les victimes pour de légères erreurs de frappe. Et enfin, l'exploitation des vulnérabilités des systèmes de paiement qui ciblent des failles dans les systèmes de traitement de ceux-ci pour intercepter les données bancaires. On est sur du classique, mais c'est surtout très pragmatique de la part des cybercriminels. Ça fonctionne extrêmement bien, ça marche pratiquement à tous les coups, pourquoi s'en priver ? Une vulnérabilité critique, identifiée sous la CVE 2024-10924, affecte le plugin Really Simple Security, ou anciennement connu sous le nom de Really Simple SSL, largement utilisé pour la sécurisation des données des sites WordPress. Cette faille permet à des attaquants distants de contourner les mécanismes d'authentification accédant ainsi à des comptes d'admin des sites impactés. Mais rentrons dans le détail. Les conséquences de cette exploitation de cette vulne, c'est un contournement total de l'authentification. Un attaquant peut se connecter à tout moment et à tout compte, y compris les comptes admin, sans connaître les identifiants ou pas ou les codes 2FA. Donc l'impact, c'est une faille qui peut être exploitée massivement à l'aide de scripts automatisés. Donc il y a une RCE publique qui est sortie, ça marche. Ça facilite toutes les campagnes de prise au contrôle de grande envergure. Alors c'est quoi la cause ? Bah, la faille, elle va résider dans la gestion incorrecte des actions liées à l'authentification dans l'API REST du plugin, spécifiquement lorsque l'authentification à deux facteurs, le 2FA, est activé. C'est incroyable. On nous bassine tous les jours de faire du 2FA et là on découvre que quand on l'active, bah, ça a été codé comme des pieds, quoi. La fonction vulnérable, le check login on get user, traite les paramètres suivants. Vous avez deux paramètres, le user ID, qui est l'identifiant d'utilisateur, et le login nonce, qui est le jeton de validation unique, donc le fameux 2FA. Lorsqu'un login nonce et invalide est envoyé dans une requête, le système ne va pas rejeter la tentative comme attendu. Là, c'est que vous avez affaire à un codeur que vous avez trouvé dans une plateforme à 5€ la journée, quoi. Au lieu de cela, il appelle la fonction authenticate on redirect qui identifie l'utilisateur uniquement sur la base du user ID. Bien que le 2FA soit désactivé par défaut, de nombreux administrateurs l'ont activé pour renforcer la sécurité des comptes. Les versions vulnérables sont la 9.0 à la 9.1.1.1 du plugin. Ça va affecter toutes les versions, qu'elles soient gratuites, pro ou pro multisite. Donc, évidemment, les mesures correctives existent. Il y a une version 9.1.2 du plugin qui a été publiée le 12 novembre pour la version pro et le 14 novembre pour la version gratuite. Une mise à jour forcée en coordination avec WordPress.org a été mise en place. Mais attention, elle n'est pas complète. Mais ça ne touche pas les versions pro dont la licence est expirée. Si vous l'avez utilisée lors de l'installation de votre site WordPress, puis vous dites, bah, tiens, je vais pas payer cette année la licence, puis ça continue à être durci. C'est pas bon. 4 millions d'installations du plugin. Il y en a environ 3,5 millions qui ne sont pas encore patchées. Ça fait quand même 87,5%. Donc si vous utilisez du WordPress, vous mettez à jour tous vos plugins. Les cybercriminels intensifient l'usage de fichiers SVG, ce qu'on appelle des Scalable Vector Graphics, dans leur campagne de phishing. Ces fichiers permettent non seulement d'afficher des graphiques, mais également de masquer des scripts malveillants ou d'intégrer des formulaires de collecte de données tout en échappant à la détection des solutions de sécurité traditionnelles. Il faut savoir que les emails de phishing, qui exploitent désormais ces fameux fichiers SVG, pour contourner des solutions de détection, les caractéristiques de ces fichiers qui favorisent leur usage malveillant incluent un contenu dynamique, donc on peut inclure du JavaScript, c'est très faiblement détecté par les antivirus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a que quand on met des fichiers SVG dans VirusTotal qu'on arrive à peu près à coup sûr de détecter, et c'est pas sûr à chaque fois. On peut encoder des liens malveillants. Donc, si vous voulez mettre une charge malveillante via un C2, vous pouvez mettre un fichier SVG. Ces attaques visent principalement des employés en entreprise. Ça touche le monde professionnel. Ça cible des informations sensibles telles que des identifiants de messagerie. Les mesures, il n'y en a pas beaucoup. C'est soit vous mettez au niveau de passerelles de messagerie des filtrages sur tout ce qui est SVG. La vulnérabilité critique CVE 2024-10914, identifiée dans les dispositifs NAS D-Link, arrivée en fin de vie, est désormais activement exploitée par des acteurs malveillants. Malgré un score CVSS de 9.8, D-Link a confirmé qu'aucun correctif ne serait publié pour ces modèles, rendant les dispositifs exposés sans solution immédiate. Alors il faut savoir que les produits affectés, ce sont tous les modèles D-Link DNS 320, DNS 320LW, les DNS 325 et DNS 340. Les versions vulnérables, c'est toutes les versions du firmware jusqu'à la 2024-10-28. La nature de la vulnérabilité, c'est une injection de commande via la fonction CGI User Add. La faille réside dans le traitement de l'argument name dans les requêtes HTTP. On peut faire de l'injection de commande. On n'a besoin d'aucune authentification pour permettre ce type d'attaque. Alors au début, on l'avait initialement jugé élevé selon l'avis de sécurité, mais extrêmement complexe à mettre en œuvre. Sauf que depuis une semaine, nous avons un petit exploit public qui est disponible, qui réduit complètement la barrière technique. En deux clics, vous êtes maître à bord du NAS. Les premières tentatives d'exploitation ont été détectées dès le 12 novembre, dès la sortie du POC, ça a été fait. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qu'il faut retenir dans ce type d'avis de vulnérabilité, c'est la vulne sort. Bon, ok, elle est compliquée, elle va pas être exploitée tout de suite. Par contre, il y a un POC qui démontre que la vulne est exploitable. C'est dans les minutes, dans la demi-heure, dans l'heure qu'on voit que ça tourne. Les mecs, ils font de la veille, quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a deux sources d'informations. Une par NetSecFish, qui a détecté que 61 000 dispositifs D-Link sont potentiellement vulnérables. Mais quand on regarde la Shadow Foundation, on est plus sur 1100 dispositifs vraiment vulnérables qui sont exposés directement sur Internet. C'est-à-dire que pour les attaquants, c'est juste du pain béni, quoi. Alors, la mauvaise nouvelle, il n'y a pas de correctif. D-Link a annoncé que ses modèles NAS étaient en fin de vie. Aucun correctif ou mise à jour du firmware ne sera publié. Alors, les recommandations, évidemment, sont toujours les mêmes. Si vous pouvez déconnecter votre NAS d'Internet, vous le faites. Vous pouvez remplacer l'équipement, utiliser des pare-feux ou des VPN. Une surveillance active avec de l'IDS ou de l'IPS. Bon, personnellement, quand un constructeur voit une telle vulnérabilité et ne fait rien, c'est quand même pas bon signe, quoi. Alors, c'est pas cher, mais... ça s'appelle du jetable. Et voilà, ce podcast de Radio Sessor du lundi 18 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Ce fut laborieux à enregistrer ce matin. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Sessor au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir. Je vais ramer au montage, mais alors...